Bonjour à tous. Cette semaine, l'écho vous emmène à l'école.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
L'éducation est-elle devenue un marché mondial ? Que nous apprennent les théories du capital humain ? Et comment enseigner les sciences économiques ? Voilà les sujets sur lesquels nous plancherons toute cette semaine. Aujourd'hui, c'est le prix de la gratuité que nous allons examiner. Instauré par Jules Ferry et les lois de 1881, la gratuité de l'école tend à masquer l'ampleur des dépenses d'éducation. Elle représente pourtant près de 7% du PIB chaque année. De quoi relancer les débats autour du financement de l'enseignement supérieur, alors que les candidats à l'université sont toujours plus nombreux. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. C'est l'histoire d'une légitime dépense et des débats qui l'accompagnent qui vont nous occuper aujourd'hui en compagnie de Pierre Courtiou, économiste, directeur de recherche à l'EDEC Business School, chercheur associé au Centre d'économie de la Sorbonne. Avec nous également depuis France Bleu Bordeaux, Clémence Cardonquin, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Bordeaux et membre du Centre d'études des mondes modernes et contemporains. À 14h50, l'actualité de l'écho nous sera présentée comme chaque jour par Xavier Martinet. Pierre Courtiou et Clémence Cardonquin, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on parle de gratuité à l'école, mais en réalité, c'est une notion qui est assez complexe, plus complexe peut-être qu'il n'y paraît. Pierre Courtiou, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de gratuité de l'école ?
Il me semble que quand on parle de gratuité, on pense à la gratuité en termes d'accès. Et on oublie en partie les coûts indirects qui sont les différentes manières qu'on a de financer les dépenses publiques, notamment les impôts. Et les différents types de prélèvements obligatoires.
On oublie que cela représente un coût important pour l'État, pour les collectivités locales et territoriales.
Et pour les contribuables aussi.
Et alors justement, qu'est-ce que ça représente ? Alors en termes de coût pour les contribuables, on le comprend, mais ça représente même aussi un coût pour les familles et peut-être un coût qui augmente puisqu'il y a différentes dépenses possibles quand on parle de coût de l'éducation.
Alors là, le point sur lequel j'ai tendance à insister, c'est l'hétérogénéité des prix. Ça veut dire qu'en fait, il y a, selon les formations qu'on va suivre, selon le niveau auquel on va se situer dans le système éducatif, les prix sont très différents. À la fois ceux qui sont à la charge des familles, ce qui est à la charge du contribuable, ce qui est à la charge des étudiants et des futurs étudiants.
On peut dire par exemple qu'en maternelle, un élève coûte 6 800 € par an contre 15 760 € pour un étudiant de classe préparatoire aux grandes écoles. Clémence Cardonquin, un premier mot sur cette notion de gratuité.
Oui, alors effectivement, derrière la notion de gratuité, il y a toujours la question de la prise en charge de l'enseignement, avec la diversité de ceux qui ont contribué à financer cet enseignement. Sous l'Ancien Régime, on a déjà des formes de gratuité. Vous avez mentionné la loi Ferry, mais en réalité, il y a déjà des personnes qui bénéficient d'un enseignement gratuit au Moyen-Âge, sous l'Ancien Régime, et cela signifie que l'enseignement et puis l'entretien de l'élève sont pris en charge par d'autres acteurs, que ce soit l'Église, les congrégations enseignantes ou les communes.
C'est le cas des écoles de charité, des petites écoles paroissiales sous l'Ancien Régime qui effectivement sont gratuites.
Par exemple, pour une partie des élèves, ça n'est pas systématique, mais il y a des formations qui s'adressent aussi aux élites, à une petite minorité, dans lesquelles l'enseignement peut être gratuit. Par exemple, dans les collèges jésuites, l'enseignement stricto sensu est gratuit. Alors après, les chambrées, les enseignements additionnels, là, font l'objet d'une rémunération particulière. Mais ce serait une erreur de lier la gratuité avec la question de l'indigence ou de la justice sociale à l'Ancien Régime, sous l'Ancien Régime. Au départ, ce sont des questions qui sont distinctes.
Toute la question, c'est de savoir ce qui est associé à cette notion de gratuité. Quel est l'objectif qui est poursuivi quand on rend l'école gratuite ? Par exemple, lorsque l'Église offrait une instruction gratuite sous l'Ancien Régime, c'était avant tout pour évangéliser, pour moraliser les populations ?
Oui, sans doute, la première raison qui a conduit à diffuser très largement l'instruction, ça a été de former les chrétiens. Et on voit une dynamique d'accélération de la diffusion de l'instruction avec la réforme au XVIe siècle et la concurrence entre protestants et catholiques pour former des chrétiens. Et dans cette concurrence, l'instruction joue un rôle clé pour les protestants. Il s'agit d'apprendre à chaque chrétien à lire pour qu'il puisse avoir accès aux textes sacrés. Donc, dans ce contexte-là, c'est la formation du chrétien qui est le... qui est la première motivation, la première raison qui conduit à ouvrir, entretenir des écoles.
Et en même temps, même lorsque l'école est gratuite, ce n'est pas toujours suffisant pour les plus pauvres, pour lesquels les enfants représentent une force de travail indispensable. Ça, c'est une question qui va traverser tout le 19e siècle, même si elle est évidemment beaucoup plus ancienne.
Oui, le travail des enfants reste un obstacle à la diffusion de l'instruction tout au long du 19e siècle. Il faut se souvenir des grandes lois d'interdiction du travail des enfants. 1841, c'est le travail qui est interdit pour les enfants en dessous de 8 ans. 1874, 12 ans. Ça signifie plusieurs choses. Ça signifie que derrière la diffusion de l'instruction, on a aussi l'évolution d'une société qui s'enrichit, qui dégage des capacités, et notamment pour l'État ou les collectivités locales, une capacité fiscale pour financer des écoles et des familles qui de plus en plus peuvent se priver du travail des enfants et leur offrir une instruction. Instruction qui, au 19e siècle, reste limitée. Et je crois aussi que pour le 19e... dans la continuité de la philosophie des Lumières, il faut penser à l'enjeu politique que représente la diffusion de l'instruction. Il s'agit de former un citoyen.
Alors, on va y revenir, mais d'abord, si on reste encore un petit peu sur ce 19e siècle, du côté des familles plus aisées, ce que l'on voit, c'est que ces familles ont recours à des précepteurs. Je vous propose d'écouter un extrait du Rouge et le Noir de Stendhal, lu en direct par Aliette Ovine de l'équipe d'Entendez-vous l'écho.
Je veux absolument prendre chez moi Sorel, le fils du scieur de planches, dit Monsieur de Rênal. Il surveillera les enfants qui commencent à devenir trop diables pour nous. C'est un jeune prêtre haut en veau, bon latiniste, et qui fera faire des progrès aux enfants, car il a un caractère ferme, dit le curé. Je lui donnerai 300 francs et la nourriture. Cet arrangement convient de plus d'une façon, continua Monsieur de Rênal, en regardant sa femme d'un air diplomatique. Le Valéno est tout fier de ces deux beaux Normands qu'il vient d'acheter pour sa calèche, mais il n'a pas de précepteur pour ses enfants. Ne dissimulons rien. Nous sommes environnés de libéraux ici. Tous ces marchands de toile me portent envie, j'en ai la certitude. Deux ou trois deviennent des richards, eh bien. J'aime assez qu'ils voient passer les enfants de Monsieur de Rênal allant à la promenade sous la conduite de leur précepteur. Cela imposera. Mon grand-père nous racontait souvent que, dans sa jeunesse, il avait eu un précepteur. C'est 100 écus qu'il m'en pourra coûter, mais ceci doit être classé comme une dépense nécessaire pour soutenir notre rang.
Une dépense nécessaire pour soutenir notre rang. Voilà la vision de Monsieur de Rênal. Je rappelle que l'histoire se déroule en 1830. Que vous inspire cet extrait, Clémence Cardonquin? Qu'est-ce qu'il nous dit des fortes inégalités en matière d'instruction?
Alors effectivement, on continue d'avoir des précepteurs au 19e siècle, mais ça ne doit pas masquer une réalité qui est celle aussi de la diffusion d'établissements scolaires qui cette fois s'adressent aux élites, qui sont payants, mais qui peuvent aussi être financés et de plus en plus par l'État. En 1802, on a l'instauration des lycées à l'initiative de Napoléon. Ces lycées bénéficient de larges subventions par l'État qui prend en charge la formation des boursiers et contribue ainsi au financement de ces lycées dans lesquels peuvent être aussi scolarisés des élèves payants. Donc ce qu'il est important d'avoir en tête aussi, c'est qu'en réalité on perçoit, et c'est déjà pensé et théorisé au XVIIIe siècle et de manière encore plus nette au XIXe siècle, qu'on ne peut pas se contenter de l'initiative privée pour diffuser, y compris pour diffuser l'instruction de haut niveau, pour diffuser les savoirs. L'État va intervenir dans la formation des élites et va contribuer financièrement à la formation de ceux qui sont appelés à occuper les hautes fonctions et aussi à contribuer à la production et à la transmission des savoirs.
Mais des lycées payants, dites-vous, parce que les inégalités d'accès à l'éducation entre riches et pauvres sont finalement justifiées, et elles sont justifiées déjà par les Lumières au XVIIIe siècle. Quels sont leurs arguments, Clémence Cardonquin? C'est l'idée que l'instruction des plus pauvres est vue comme une menace?
Alors, ce serait un petit peu excessif de faire des lumières l'origine de cette pensée. Disons que, en fait, on se méfie au XVIIIe, et c'est une idée qui va perdurer jusqu'au milieu du XXe siècle, on se méfie d'un accès trop élargi à l'instruction. En fait, ce qu'on considère très longtemps, c'est qu'il faut une instruction commune à tous, mais qu'en revanche, seule une petite frange de la population doit pouvoir poursuivre dans des formes de scolarisation, dans un accès à l'université, bref, peu importe, mais en tout cas, ça doit concerner une petite minorité. Sinon, que risque-t-on de faire? On va appauvrir la France parce qu'on va vider les campagnes et on va former des déclassés qui ne trouveront pas leur place dans la société. Mmh. Alors, ce n'est pas forcément qu'on trouve ça juste, mais c'est surtout qu'on ne voit pas comment on pourrait penser autrement une organisation sociale. Pour réussir à penser autrement une organisation sociale, il faut attendre la fin du 19e, le début du 20e siècle et les réflexions sur une école juste, l'école unique.
Alors qu'il y a cette idée qu'un enseignement élémentaire de masse permettrait de maintenir l'ordre social et peut-être en même temps d'augmenter la productivité du moment qu'il reste élémentaire et qu'il n'atteint pas un certain niveau.
Voilà, le consensus s'étend tout au long du 19e siècle et c'est commun à tous les régimes politiques. Il y a beaucoup d'alternance de régimes politiques au 19e siècle, mais les élites partagent cette idée qu'une instruction rudimentaire, lire, écrire, compter, maîtriser les éléments de la langue française, c'est finalement utile parce que ça participe, selon la formule du ministre de l'Instruction publique, Guizot, au gouvernement des esprits. Donc c'est un élément de stabilité. Il faut bien imaginer qu'on est dans une France traumatisée par les troubles de la Révolution française, qu'il s'agit d'éviter. Mais de manière plus positive, on y voit aussi une source de progrès. Et là-dessus, il y a un héritage de la pensée des Lumières, l'instruction comme source de progrès pour l'individu, pour la société, et puis aussi l'instruction comme condition du bon fonctionnement d'institutions politiques qui, malgré tout, ont été transformées par la Révolution française.
Mais le problème que l'on constate au fur et à mesure du 19e siècle, c'est que, faute de financement suffisant, l'enseignement, en particulier dans les communes, a souvent lieu dans d'assez piètres conditions, avec des instituteurs notamment très peu rémunérés.
Oui, vous avez raison de le pointer, c'est dans les communes que cela se joue, la diffusion de l'instruction primaire. Et pour diffuser cette instruction, ce sont les communes que vise la loi Guizot de 1833, alors qui s'occupe d'abord de l'obligation d'ouvrir et d'entretenir des écoles. Et la question de la rémunération des maîtres, au départ, repose sur la contribution des familles. Et l'un des obstacles à la diffusion et à la reconnaissance aussi de l'utilité de l'instruction, c'est la qualité des maîtres. Donc l'étape suivante, c'est aussi d'assurer la formation, une formation de qualité pour tous les maîtres et de les rémunérer suffisamment pour que la fonction d'instituteur soit reconnue. Et là, il y a une contribution essentielle qui sera celle des Républicains.
Mais ces droits d'écolage, comme on les appelle, qui sont ces droits versés par les parents pour financer les écoles communales, sont souvent insuffisants. Et là, on voit qu'on aboutit à une situation problématique avec des écoles délabrées, ou plus exactement des lieux qui manquent, où on va peut-être apprendre et s'instruire dans le lieu d'habitation du maître. C'est là qu'il y a une prise de conscience de cette absence de financement, de cette insuffisance des financements.
Alors à cet égard, la situation, elle se transforme quand même tout au long du 19e siècle. C'est-à-dire que ce que vous décrivez là, le maître qui enseigne chez lui, sans matériel, avec des élèves d'âge différents, plus ou moins attentifs, c'est une représentation qu'on voit par exemple dans des gravures du début du 19e siècle. Mais la prise de conscience politique et les lois successives font quand même obligation aux communes d'ouvrir, d'entretenir des bâtiments. Donc il y a un effort qui est fait sur les bâtiments qui va être effectivement renforcé par les Républicains à la fin du XXe siècle, avec les grandes lois scolaires de la Troisième République. Ce qu'on perçoit aussi, c'est que avec un consensus de plus en plus large sur la nécessité de l'instruction, on remarque qu'il y a une partie de la population qui échappe à cette instruction primaire ou qui encore fréquente l'école de manière trop irrégulière, avec un profit incertain ou pour une scolarité trop courte. Et c'est cette nouvelle frontière qu'il s'agit de franchir à la fin du 19e siècle.
D'où l'objectif de rendre l'école obligatoire. Et alors, en 1879, Jules Ferry devient ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.
La République. Vous n'avez que ce mot à la bouche, monsieur Ferry. Mais elle fera quoi pour nous, ici, au Thio, votre République ?
La République, c'est la propriété de votre terre, la paix, le calme. Pour vos enfants, fini l'usine des 8 ans. Ils iront à l'école. Ils apprendront à lire.
Ça leur servira à quoi de lire ?
Ils seront plus instructionnés que nous.
À devenir instituteurs, postiers, médecins peut-être. Et puis, ils pourront lire les journaux. On ne pourra plus leur faire tout gober. Ils seront enfin de vrais citoyens.
extrait du téléfilm Jules Ferry de Jacques Rouffio. Clémence Cardonquin, quel était l'objectif de Jules Ferry lorsqu'il instaure l'école gratuite et obligatoire ?
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est ce qui s'inscrit dans le prolongement de l'action initiée par les régimes précédents, la monarchie de Juillet, la Deuxième République avec la loi de 1850, le Second Empire avec la loi de Victor Duruy, qui déjà avait ouvert un certain nombre de possibilités pour les communes d'instaurer la gratuité totale pour les élèves. Donc, il y a une filiation importante, hein, ça n'est pas une rupture. En revanche, je crois que pour les Républicains, ce qui marque un vrai basculement, c'est la dimension symbolique. C'est afficher l'effort consenti par la République pour l'instruction dans toutes les communes. Et il va revenir à l'école, aux écoles, d'enraciner la République jusque dans le moindre village. On est dans une France qui est encore majoritairement rurale et ce sont les campagnes qu'il faut rallier à la République.
Et ça passe par exemple par le manuel d'histoire, le fameux d'Ernest Lavisse qui enseigne le roman national et républicain.
Ça passe par ça passe aussi bien sûr par l'instruction morale et civique, hein, par la laïcisation des programmes. Et puis ça passe par un effort financier renouvelé, un effort financier qui lève l'obstacle financier pour les dernières familles, puisque l'école est gratuite, hein, désormais pour les familles. Mais un effort financier qui bénéficie aussi aux communes, c'est ce qu'il faut avoir en tête. C'est qu'en fait, les lois Ferry, et puis surtout la loi de 1889 par laquelle l'État prend en charge la rémunération des instituteurs, en fait, elle opère un transfert de charges des communes vers l'État. Et c'est à ce moment-là l'État qui, pour réduire les inégalités, pour venir au secours des communes les plus fragiles, prend en charge l'essentiel de la charge financière que représente la scolarisation primaire, qui est une scolarisation qui reste populaire, destinée aux enfants du peuple. Hein. Les jeunes élèves de 6 à 13 ans, les jeunes enfants de l'élite, fréquentent les classes élémentaires des lycées et collèges qui restent payantes. Il ne faut pas l'oublier.
Elles sont payantes, ces classes et ce niveau secondaire, mais il y a tout de même des boursiers qui progressivement peuvent y accéder.
Oui, alors je précise bien, ce sont des classes. Hein. C'est pas seulement le secondaire à la fin du 19e siècle. Ça n'est pas un degré d'enseignement qui viendrait après le primaire. C'est une filière complètement autonome qui accueille des élèves dès l'âge de 6-7 ans dans les classes élémentaires. Et oui, ces classes sont payantes. Elles sont accessibles, en particulier à partir de la 6e, à des boursiers. Mais il ne faut pas oublier que ces deux ordres, primaire et secondaire, ne sont pas faits pour s'articuler. La fin de la scolarité primaire, c'est en principe 13 ans ou 12 ans si on a réussi le certificat de fin d'études. Mais ça ne coïncide pas avec le début des études secondaires en 6e. Donc ce sont deux filières qui coexistent mais qui ne sont pas faites pour être raccrochées. Et ça va être tout l'enjeu des réformes scolaires de la première moitié du 19e siècle, de revenir sur ce qui n'est pas une invention des Républicains, ce qui est très largement un héritage de la structure scolaire du 19e siècle, mais qui en tout cas fait obstacle à l'idée d'égalité d'éducation.
Et alors justement, dans quel contexte politique et économique l'enseignement du premier cycle du secondaire, qu'on appelle alors l'enseignement primaire supérieur, devient-il à son tour gratuit ? On est alors dans les années 30.
Alors c'est plus compliqué que ça.
Alors, expliquez-nous.
En fait, oui, parce que ce qu'il faut se représenter, mais c'est tellement différent du système actuel qu'on a du mal à se projeter dans ce passé, c'est que ce que vous avez à la fin du 19e siècle, pour des élèves, disons, au-delà de 12-13 ans, vous avez certes ceux qui ont débuté dès leur plus jeune âge dans les classes des lycées et collèges et qui poursuivent une scolarité secondaire qui conduit au baccalauréat, mais les Républicains développe aussi un enseignement qu'on appelle primaire supérieur et qui permet à des élèves issus de l'école primaire, cette fois, de poursuivre une scolarité plus courte, 4 ans, qui ne débouche pas sur le baccalauréat, mais qui permet néanmoins une forme d'ascension sociale.
À condition d'avoir réussi l'examen d'entrée.
De contre-maître. À condition d'avoir réussi, et puis, bien sûr, et ça ne concerne qu'une petite minorité des élèves de l'école primaire. Mais l'élément important, c'est que la scolarité dans ces écoles primaires supérieures, elle est gratuite dès le départ. Cela relève de l'ordre primaire et ces classes sont donc gratuites. Et c'est là finalement que va être l'un des nœuds du débat sur l'école dans l'entre-deux-guerres. C'est que quand on commence à dire, alors il y a une petite minorité de gens qui le disent dès la fin du 19e siècle, mais ce discours s'impose de manière dans le débat politique au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec par exemple les compagnons de l'Université Nouvelle, eh bien, quand on commence à dire que c'est inacceptable, le fait que le parcours scolaire, le fait d'aller dans une école primaire supérieure ou dans l'enseignement secondaire soit simplement le reflet de l'origine sociale et pas du mérite, hein, eh bien là, va se poser la question de la différence de régime financier entre des écoles primaires supérieures qui sont gratuites et forcément plus attractives pour les familles populaires et un enseignement secondaire qui est payant.
D'où la volonté d'unifier tous ces systèmes et dans un premier temps d'unifier l'enseignement primaire, c'est-à-dire d'unifier l'école communale dont vous avez parlé et les classes élémentaires des petits lycées qui étaient payantes.
Exactement. L'idée, au départ, c'est de se contenter déjà d'une unification des maîtres et des programmes. 1925-1926, c'est le fruit de toute cette réflexion sur l'école unique. On crée un vrai premier degré à cette réserve près qu'on ne ferme pas les classes élémentaires des lycées et collèges et que ces classes restent payantes. Simplement, les programmes sont les mêmes et les professeurs sont formés de la même façon. Les instituteurs. Plus exactement, pour reprendre le terme de l'époque, sont formés de la même façon. Donc c'est la première étape de l'école unique. Reste après la question de la poursuite d'études, qui ne concerne à cette époque, je le rappelle, qu'une petite minorité, moins de 20%, est appelée à poursuivre au-delà de la scolarité obligatoire, donc au-delà des classes primaires. Et là, se pose la question de l'orientation juste. Qu'est-ce qui va conduire un élève à fréquenter les classes secondaires qui conduisent au baccalauréat ou à rentrer dans une école primaire supérieure ou dans une école pratique du commerce et de l'industrie. Alors, ça renvoie à des problématiques très complexes, notamment celle du contenu des programmes scolaires, de la place du latin dans la formation, du bon moment à choisir pour pratiquer une orientation juste, de la place de l'examen par rapport à ce que serait une observation. Donc, c'est un débat extrêmement complexe. Et c'est à l'intérieur de ce débat très complexe qu'intervient la gratuité des études secondaires et qui est instaurée progressivement avec, disons, deux grands repères. 1930, c'est l'entrée en classe de 6e est gratuite et à partir de 1933, cela concerne toutes les classes secondaires.
Ce qu'on entend bien ici, c'est que cette durée obligatoire de scolarisation, Clémence Cardon-Quin, ne cesse de s'étendre durant le 19e et le 20e siècle jusqu'au système actuel instauré, je crois, en 1959, qui rend la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans.
Oui, alors on pourrait avoir l'impression d'un allongement continu. En fait, ça se fait par accélération brusque. Et il y a une véritable accélération qui s'opère au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On est dans le contexte de la reconstruction. Il y a aussi un rattrapage technique, économique par rapport aux États-Unis. Une modernisation de l'économie qui se traduit par une accélération de l'exode rural. Et dans ce contexte-là, il y a un nouveau consensus qui émerge en faveur d'un élargissement de l'accès aux formations longues. Alors, c'est un consensus qui émerge au niveau des décideurs, du commissariat général au plan, des ministres de l'éducation, et on voit cette idée se cristalliser dans les débats à la fin des années 50. Et ça correspond aussi à une transformation des pratiques des familles. Les familles aussi s'enrichissent, peuvent se permettre de scolariser leurs enfants plus longtemps, ont de l'appétence pour surcroît de culture, sont aussi sensibles à ce développement de l'offre. Il y a tous les acteurs intermédiaires du système qui ouvrent des cours complémentaires, des centres d'apprentissage. Donc il y a aussi une offre d'enseignement qui encourage cette appétence. Et donc, c'est dans ce contexte où on voit déjà que les scolarités s'allongent, qu'est prise la décision, inscrite dans l'ordonnance de janvier 59, de prolonger la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, ça vient confirmer et accélérer un mouvement qui était déjà bien dessiné, qui était en train de se dessiner sur le terrain.
Et cette même année, 1959, sort un film, Les 400 coups de Truffaut.
Un jour, fatigué, je dormais dans mon gîte. La petite Margot me surprit. Je m'agite. Je ne suis pas le seul, n'est-ce pas, Simonneau ?
J'ai rien fait, monsieur.
Naturellement, c'est toujours l'autre. Certes, elle m'aimait bien, la gentille maîtresse. Quelle imbécile qui a sifflé ? Ah, je vous préviens, je vais être injuste. Si le coupable ne se dénonce pas, c'est le voisin qui prendra, n'est-ce pas, Simonneau ?
Mais je vous jure, monsieur !
Oh !
C'est pas moi, monsieur !
Des lâches, en plus ! Ah, quelle année, quelle classe ! Ah, j'en ai connu, des crétins ! Mais au moins, ils étaient discrets !
Voilà, on entendait Antoine Douanel, incarné par Jean-Pierre Léo, se faire réprimander par son maître, Clémence Cardon-Quin. De même que le primaire était unifié, le secondaire va l'être également à partir du début des années 60.
Alors, unifié, c'est beaucoup dire. Disons qu'il y a une mise en système de l'éducation, donc on... Disons que c'est beaucoup une histoire de tuyauterie, hein. Il faut s'assurer que le premier degré débouche bien pour tout le monde sur l'entrée en sixième, ce qui est prévu par la réforme de 1959. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'entrer en sixième? Est-ce que tout le monde peut entrer dans le cycle d'orientation? Et en fait, dans le cycle d'observation, pardon. Et en fait, au départ, ça n'est pas encore un premier cycle complètement unifié. La première structure qui se met en place, c'est le collège d'enseignement secondaire. Ça n'est pas un collège unique, c'est un collège au sein duquel on retrouve différentes filières qui sont censées s'adapter aux aptitudes des élèves, à leur destin futur, et qui sont confiées à des enseignants de formations différentes.
Et ça va
donc
disparaître justement
au collège unique.
Voilà, avec la création du collège unique en 1975.
Exactement.
Et alors qu'est-ce que ça va changer?
Alors le collège unique, en fait, ce qu'il introduit, c'est un brassage des élèves et des maîtres, en tout cas pour les classes de 6e et 5e, parce qu'en réalité, au départ, on maintient un palier d'orientation après la 5e vers les formations professionnelles, et donc le collège unique de 4 ans met beaucoup plus de temps à devenir une réalité dans les établissements scolaires et pour l'ensemble des élèves.
Pierre Courtiou, je voudrais vous faire réagir à cette histoire de cet allongement progressif de la durée obligatoire de la scolarisation. Qu'est-ce que ça vous inspire?
En fait, ce qui me frappe, c'est plutôt le fait que quand on regarde de l'autre côté, c'est-à-dire quand on s'intéresse aux formations d'élite, aux diplômes d'élite, et qu'on comprend l'histoire de l'autre côté, on a une histoire un peu différente. L'histoire française, c'est aussi l'accès aux différentes charges, l'accès aux différents postes publics. C'est les écoles d'ingénieurs, etc., qui sont aussi assez anciennes, qui a de la Révolution, qui sont aussi dans l'imaginaire de notre République. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est d'insister sur le fait que, au départ, quand on pense à la gratuité, elle se construit aussi avec l'idée qu'on va distribuer les charges aux plus compétents, aux ceux qui le méritent. Il y a le mérite républicain. Et que c'est bien dans ce sens-là aussi qu'on construit une forme de sélection et qu'on distribue, entre guillemets, les investissements éducatifs, pour reprendre un terme plus économique, voilà, je suis économiste, se concentrer sur une partie de la population.
La place du mérite, ça va effectivement être une question importante et qui se pose aussi avec la massification de l'enseignement et le fait que les coûts de la scolarité augmentent. Alors qui doit payer? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que ce sont les collectivités? Est-ce que ce sont les familles? On ouvre le débat dans un instant.
Je me suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Fais les devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, mais en plus pour finir chômeur. Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, les lourds comme un cheval mort. 10 kilos d'indispensables, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. C'est la l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu. Jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture, pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs.
C'est quand on va où entre nous dans les années 90. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho. Pierre Courtiou et Clémence Cardonquin sont toujours avec nous pour parler de la gratuité de l'école et des débats qui l'accompagnent. Alors la massification de l'enseignement commence à prendre de l'ampleur dans les années 60. Pierre Courtiou, c'est ça qui va reposer la question du financement de l'éducation et de la répartition des coûts entre l'État, les collectivités, les familles?
Alors, je pense que ça ne repose pas directement comme ça. C'est une question qui va émerger à la fin du XXe siècle, au début du XXIe, qui reste toujours très présente, mais qui, à mon sens, est intéressante dans la mesure où, derrière cette idée de massification, cette idée que finalement, il y a toujours cette histoire de gratuité, on peut s'interroger sur la concentration de certains types de dépenses sur certaines personnes. En fait, encore une fois, même si l'accès est gratuit, terminer ses études au niveau licence ou terminer au niveau master, ça n'implique pas le même niveau d'investissement pour ces individus, pour ces étudiants. Derrière cette massification, cette gratuité apparemment homogène, se cache une forte hétérogénéité.
Mais avant d'en venir à la question de l'investissement de l'enseignement supérieur, qui est une question très intéressante, comment se répartissent les coûts justement dans l'enseignement primaire et secondaire? On sait que l'État prend en charge le salaire des enseignants et du côté des collectivités, qu'est-ce qui doit être pris en charge et du côté des familles?
Alors, en fait, le point sur lequel j'aurais tendance à insister pour parler du système français, c'est qu'en fait, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, le privé en France, qui est à 99% du privé sous contrat, est financé par l'État. Il faut avoir en tête qu'une partie des... les enseignants sont financés par l'État, dans le privé, et une partie aussi de la... des coûts d'entretien des bâtiments est financé par le privé en proportion de leur petitesse, j'allais dire, du fait d'être complémentaire d'autres dispositifs au niveau local.
Mais alors arrêtons-nous un peu là-dessus. En effet, comment ces subventions publiques aux écoles privées qui sont décidées par la loi Debré de 1959 sont justifiées à l'époque? Pourquoi est-ce que l'État prend en charge en effet le financement et le paiement du salaire des enseignants dans l'école privée?
Alors je ne me risquerai pas une explication historique, mais juste un complément, dire économique. C'est l'idée qu'en France, on a quand même un grand service d'éducation qui couvre différents modes d'accès à l'éducation. Et je pense que le privé, en tout cas c'est comme ça qu'il a été conçu, fait partie d'un grand service d'éducation.
Clémence Cardonquin.
Oui, merci. En fait, on connaît assez bien les débats sur la loi Debré. Ça vient répondre à une réclamation ancienne des familles qui scolarisent leurs élèves dans les écoles privées. Ce qu'on sait, c'est que les établissements privés qui jusque-là étaient pris financièrement en charge par les familles, ces établissements privés rencontrent des difficultés financières croissantes.
Il y a cette idée que de toute façon, l'État aurait dépensé cette somme pour un élève dans le public.
Oui, il y a cette idée qu'au fond, les familles, qui pour des raisons religieuses encore dans l'entre-deux-guerres et encore au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc les familles qui pour des raisons religieuses choisissent les établissements privés qui sont très majoritairement confessionnels et catholiques, eh bien ces familles contribuent comme les autres à la capacité fiscale de l'État en payant des impôts. Mmh. Et elles voient dans le fait que l'État finance les établissements privé, eh bien, la condition d'exercice de la liberté d'enseignement qui est inscrite dans les textes depuis le 19e siècle. En 1833, c'est la liberté de l'enseignement primaire. 1850, la liberté de l'enseignement secondaire. La question, c'est qu'est-ce qu'on entend par liberté? Et le point de vue des défenseurs de l'école privée et d'un financement public des écoles privées, c'est qu'au fond, l'exercice de cette liberté d'enseignement suppose une aide financière de l'État, suppose que la charge ne soit pas entièrement, ne repose pas entièrement sur les épaules des familles qui ont, par leurs impôts, contribuer au financement des écoles publiques. Donc
c'est
un argument qui vient des familles qui veulent scolariser leurs élèves dans les écoles privées. Et il y a bien sûr des affinités politiques entre les personnes au gouvernement au tout début de la Ve République et puis ces milieux catholiques. Et il y a un deuxième élément, c'est qu'aussi dans les années 60, l'État a à faire face non seulement à l'élévation des taux de scolarisation dans le premier cycle, mais aussi à une explosion démographique. C'est le terme de Louis Cros, l'explosion scolaire, parce que ce sont les générations du baby-boom qui arrivent dans le second degré. Et l'État a de toute façon besoin d'établissements. Il va construire des collèges avec des constructions industrialisées dans les années 60, mais au fond, il a aussi besoin de la contribution qu'apportent les établissements privés. Et en finançant les établissements privés avec le système des contrats d'association ou des contrats simples, l'État se donne aussi les moyens de garantir le niveau et la qualité des enseignements dispensés dans les écoles privées et en fait de rehausser le niveau de formation des enseignants en égalisant les modalités de recrutement et la rémunération entre le public et le privé.
Et puis c'est aussi un contexte où l'économie est en train de changer et au fur et à mesure, vous allez nous expliquer ça Pierre Courtioux, mais il y a peut-être l'idée que face à cette économie qui évolue, il faut emmener de plus en plus de gens vers le baccalauréat, vers une formation, et cette idée qui est défendue par Jean-Pierre Chevènement en 1985, l'idée d'emmener 80% d'une classe d'âge jusqu'au bac, et on peut se demander si c'est à cause du chômage des personnes peu ou pas diplômées.
Alors, peut-être que c'est intéressant de revenir là-dessus, de revenir sur l'idée de... En fait, la diplomation supérieure protège du chômage, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ou contrairement à ce que certains débats qu'on a sur le marché du travail, la diplomation, en fait,
c'est
voilà.
C'est toujours autant le cas? Ça n'a pas un peu changé au cours des 15 dernières années?
Non, je pense qu'effectivement, regardez les chiffres, notamment quand on a ce qui s'est passé avec la crise. Globalement, les diplômés sont restés dans les entreprises. C'est les non-diplômés qui sont partis au chômage. Et ça, c'est vrai pour tous les pays, pour la France aussi. Les entreprises se débarrassent des entre guillemets, hein, quand il y a à dégraisser, pour reprendre des termes économiques crus, on le fait avec les non-diplômés. Les non-diplômés. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes d'intégration ou d'insertion sur le marché du travail des diplômés dans des moments difficiles, dans des moments de crise.
Donc on cherche à pousser cette massification de l'enseignement aussi pour lutter contre le chômage. Dès les années 80.
Je ne suis pas historien, donc je vais pas interpréter les textes ou les textes de loi ou les débats parlementaires.
Peut-être Clémence Cardonquin peut nous dire un mot là-dessus.
Sur les années 80, oui, sur la massification du second cycle. Hein. En fait, il y a une réflexion qui articule plusieurs éléments. D'abord, le constat que ceux qui ont le plus de mal à se placer sur le marché de l'emploi, ce sont les moins qualifiés, donc ceux qui sortent sans qualification du système scolaire, et aussi ceux qui sont simplement titulaires d'un CAP. Et c'est dans ce contexte-là que l'idée germe de créer le baccalauréat professionnel en 1985, à la fois pour élever le niveau de formation de ceux qui suivent la voie professionnelle, avec cette idée que petit à petit, le CAP jouerait un rôle de moins en moins important dans les flux de diplômés. Et puis, c'est aussi un moyen, et c'est ce qu'on... Alors, ça n'est pas dit officiellement, mais c'est ce qu'on retrouve dans les notes des ministres. C'est aussi un moyen de maintenir des jeunes dans le système scolaire pour qu'ils disparaissent des statistiques du chômage. Et donc, c'est en lien avec la création du baccalauréat professionnel qui est formulé et que se diffuse ce mot d'ordre des 80% d'une classe d'âge au baccalauréat. Sauf que ce mot d'ordre, sa traduction ne va pas passer directement par la voie professionnelle, mais aussi et surtout par la voie générale et par la voie technologique. Et donc on a, entre 1985 et 1995, une augmentation rapide de la proportion de bacheliers dans une génération. On passe d'un peu plus de 30% à un peu plus de 60%.
Et c'est un système qui est rejeté par certains élèves. C'est le cas de Thomasy, incarné par Romain Duris dans Le Péril Jeune.
Ah, monsieur Thomasy. Ah bon, je vois qu'en dehors des mathématiques, il n'y a aucune note. Ah, franchement, Thomasy, j'ai jamais su quoi en faire. S'il n'est pas capable de s'adapter au système éducatif, je ne vois pas pourquoi on devrait faire des efforts pour le garder.
En voilà un qui aurait eu intérêt à arrêter ses études en troisième et à apprendre un métier.
Vous rêvez d'une classe de petits soldats bien gentils.
Là, vous tombez sur quelqu'un de différent et vous lui donnez aucune chance.
Il n'a pas tort, il faut être à l'écoute. Bon, et puis, parlons du présent. Tomasi est en terminale, il va passer le bac.
Pardon. J'ai entendu dire et répéter en classe qu'il se fichait éperdument du bac.
Mais alors... il dit ça parce que pour vous, c'est la seule chose qui compte.
Monsieur Goiffard a raison. Je vous rappelle que vous êtes en terminale, Rouvelle.
Bien sûr, mais il est important que les élèves ne pensent pas qu'au bac. Il faut parfois faire des petits détours dans des domaines qui ne sont pas forcément dans le programme. Bon, bien sûr, pour obtenir de meilleurs résultats aux examens. Il faut intéresser le jeune. Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Pierre Courtiou, que vous inspire cet extrait du Péril jeune de Cédric Clapiche?
En fait, ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est d'insister sur le fait que le bac ouvre à plein de choses, mais que c'est pas une fin en soi. Je trouve que c'est bien aussi de rappeler les aspects légaux du bac. C'est le premier diplôme de l'enseignement supérieur, c'est le premier qui va vous donner accès à l'enseignement supérieur. Et peut-être que c'est le moment de rappeler qu'en France, l'enseignement supérieur est assez particulier, hein, parce qu'il y a effectivement l'université qui est plutôt gratuite ou quasi gratuite avec des frais assez faibles. Il y a des écoles de commerce qui sont relativement chères, des écoles d'ingénieurs qui sont moins chères et largement financées par le public en général. Voilà, donc c'est bien d'avoir cette vision assez complète du système. Et je pense qu'un point important, notamment dans l'accès à l'université, c'est d'avoir en tête ce qui se passe en licence. J'aurais tendance à insister sur le fait que finalement, beaucoup d'étudiants qui ont le bac, qui se présentent en licence à l'université, en sortent sans diplôme. Ou en tout cas, en sortent en ayant un parcours heurté, en restant au niveau licence. Je trouve que c'est un point qui interroge l'ouverture sur la gratuité et la question de l'accès au baccalauréat et de l'ouverture à l'enseignement supérieur.
Est-ce que ce que cet extrait traduit aussi, Clémence Cardonquin, ce n'est pas le fait que beaucoup de jeunes ont perdu un peu espoir dans la capacité de l'école à être un ascenseur social ?
Effectivement. Alors, la question, c'est qui attend de l'école cette promotion sociale ? Là-dessus, les travaux des chercheurs sur les périodes, par exemple, sur les années 30, il y a eu des enquêtes par questionnaire auprès des familles, hein, qui ont été administrées, bien sûr, il y a une trentaine d'années, qui montrent que c'est quand même pas si évident que tout le monde cherche pour ses enfants une promotion sociale par l'école. Donc ça, c'est un premier point. On dit avant, il y avait ce désir d'ascension sociale et l'école le satisfaisait.
Il n'y a peut-être pas toujours eu ce désir d'ascension sociale. C'est ce que vous nous dites.
Pas généralisé, si. Il a sans doute toujours existé dans certaines familles, chez certains individus. Mais y voir le seul moteur de la diffusion d'instruction, des stratégies familiales face à l'école, c'est sans doute trop simplifié. Une réalité qui est beaucoup plus complexe, qui dépend du milieu, qui dépend de la culture, qui dépend de la projection qu'on peut avoir dans ses enfants. Donc ça, c'est un premier point. Après, là où vous avez parfaitement raison, c'est que le contexte économique n'est plus du tout le même que celui des 30 Glorieuses. Dans les 30 Glorieuses, en fait, il y avait une déformation de la structure des emplois qui faisait qu'on pouvait à la fois former plus de diplômés qui avaient suivi une formation plus longue et qui néanmoins trouvaient à s'employer sur le marché du travail sans avoir le sentiment que le diplôme pour lequel ils s'étaient battus en ayant en tout cas le sentiment que le diplôme pour lequel ils s'étaient battus leur donnait accès à un métier, à une véritable promotion. Ce qu'on a dans le mouvement de massification de ces 40 dernières années, c'est qu'on a effectivement des modifications dans l'accès aux qualifications, mais qui ne s'accompagnent pas d'une transformation aussi rapide de la structure des emplois, et ce qui génère évidemment des frustrations.
Ce qui nous ramène à la réalité de la méritocratie, Pierre Courtiou.
Oui, alors moi je serais moins pessimiste que le regard de l'historien. J'ai l'impression qu'au contraire, on est dans une phase où, de toute façon, il y a de plus en plus d'emplois dans le secteur avec des emplois qualifiés. Que ce qui reste, c'est la question, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on fait des emplois qualifiés. Ce qui disparaît, c'est les milieux de gamme. Il y a sur le marché du travail une question sur la polarisation, la double polarisation.
Il y a de moins en moins d'emplois intermédiaires, moyennement qualifiés.
Donc, ce qui veut dire que le niveau bac et peut-être les diplômes qui sont au niveau CAP, BEP, etc., sont pas des diplômes d'avenir. Il faut peut-être l'avoir en tête. Et que même sur des métiers manuels, il faut former à la compta, il faut former pour pouvoir évoluer dans sa profession. Je pense que c'est un point important. Et quand on a ces éléments-là en tête, et bien en fait, on regarde ce qui se passe à l'université, on se dit que, encore une fois, j'insiste, le problème Là, on a parlé de se battre pour accéder à un diplôme. On peut se battre pour avoir le bac et se retrouver à l'université et pas être capable ou pas arriver à avoir son diplôme. Et dans ce cas-là, malgré une lutte qui peut s'être passée durant l'ensemble de son cursus éducatif.
D'où le fait que le débat revient régulièrement sur la gratuité justement de l'enseignement supérieur qui existe aujourd'hui, mais est-ce qu'il faudrait encore l'amplifier?
Encore une fois, je pense que la gratuité, c'est ce que j'essayais de dire en début d'émission en précisant le concept. La gratuité, elle renvoie une partie des frais pédagogiques. En fait, elle renvoie aux frais pédagogiques uniquement. Quand on va à l'université, peut-être que c'est plus intéressant d'illustrer avec le cas des enfants. À la fin du 18e siècle, quand on développe l'école gratuite, les parents reprennent leurs enfants pour faire les moissons. C'est une bonne illustration de ce que c'est qu'un coût d'opportunité en économie. Ça veut dire que l'école, c'est très bien, mais là, mon intérêt économique, c'est de récupérer mes enfants et les faire travailler. Quelque part, quand on va à l'université, que ce soit l'État, que ce soit les individus, on se pose pas forcément, en tout cas on va se poser cette question d'un point de vue économique. La question étant de savoir, si je laisse les gens à l'université, s'ils ne travaillent pas, je vais avoir un manque à gagner en termes de base fiscale, de travail, c'est aussi un manque de rentrée fiscale pour l'État, c'est aussi potentiellement moins de revenus pour les individus ou pour leur famille. Voilà, ces questions-là sont des questions économiques si on ne peut pas aborder la gratuité indépendamment de ces questions économiques.
Mais alors justement, en clair, est-ce que pour vous, le fait qu'aujourd'hui, les droits d'inscription sont assez faibles, c'est plutôt une bonne solution?
Alors, en clair, les droits d'inscription sont relativement faibles par rapport au coût de vie ou par rapport aux frais de vie. Donc, il y a eu différentes expériences. Par exemple, je pense à l'Australie en 1973, où on a supprimé les droits d'inscription pour l'entrée à l'université. Je pense à l'Irlande en 1996, où on a supprimé aussi les droits d'inscription pour accéder à l'université. Ça a joué relativement peu sur... La démocratisation au sens ça n'a pas joué, le plus grand accès des personnes d'origine sociale défavorisée à l'université. Je pense que cet accès ne se joue pas sur le coût des droits pédagogiques, il se joue sur le fait d'avoir suffisamment de soutien par ailleurs. Alors on peut penser aux bourses, on peut penser aussi au soutien familial pour accéder à l'enseignement supérieur. Je pense que la question, elle est pas tant sur l'inscription que sur les frais de vie. Et sur la manière dont on finance les frais de vie.
Mais alors, ça c'est important ce que vous soulignez, Pierre Courtioux, parce qu'il y a un argument qui est régulièrement invoqué par ceux qui veulent augmenter les frais d'inscription, c'est que la quasi-gratuité des universités ne profite qu'aux plus aisés, finalement, puisque on voit que ceux qui accèdent à l'université, ce sont précisément les plus aisés, en tout cas qu'il y a une difficulté d'accès pour les classes sociales les plus défavorisées.
Alors, je dirais pas que c'est pas une difficulté d'accès, c'est une difficulté de maintien et de progression à l'université. En ce qu'on sait, c'est que déjà même dans l'accès à l'université, c'est pas homogène. Il y a des filières dans lesquelles on va retrouver beaucoup plus d'étudiants, d'enfants d'origine défavorisée, de jeunes personnes d'origine défavorisée. Et c'est particulièrement vrai quand on situe au niveau licence. En fait, après la licence, vous avez une sorte de grand ménage. Et vous allez retrouver des niveaux de ségrégation, on va dire, des plus défavorisés, du même ordre que pour les autres classes ou catégories sociales.
Clémence Cardonquin, vous vouliez réagir?
Oui, alors, par rapport à la question des coûts, il est certain que la question de l'entretien, du logement... De l'accès tout simplement au matériel, à la capacité d'acheter des manuels, continue de jouer un rôle. Donc l'obstacle matériel existe. Et ce qu'on peut peut-être ajouter à cette analyse, c'est aussi la question du coût de la réussite scolaire. C'est-à-dire que le tout n'est pas de fréquenter l'école et éventuellement de réussir son baccalauréat ou de réussir son examen de licence. C'est aussi d'avoir construit des apprentissages solides qui permettent une poursuite de scolarité ou une poursuite d'études réussie. Et c'est tout le problème du coût et de la prise en charge de ce qu'est le soutien scolaire, avec le développement d'un marché du soutien scolaire auquel n'ont pas forcément accès toutes les familles. C'est le problème aussi, notamment dans l'école primaire, du coût des manuels pédagogiques. Aujourd'hui, le matériel, les manuels sont à la charge des communes. Et on sait, parce qu'il y a eu des rapports assez documentés de la Cour des comptes sur cette question, même si le rapport est ancien, la réalité n'a pas beaucoup changé, on sait que les communes ne consacrent pas toutes les mêmes sommes à l'achat de manuels scolaires dans les écoles. Et donc, il y a aussi une question de coût de prise en charge du coût de la réussite scolaire, avec des inégalités qui sont aussi qui sont territoriales.
Un coût qui est croissant, Pierre Courtus, ce coût qui revient aux familles pour permettre à leurs enfants de réussir.
Bon, je pense que c'est une question que se posent les familles. Et je pense que dans la recherche de l'accès au privé, il y a cette question de qu'est-ce que mon enfant fait en dehors des périodes strictement de cours. Et parce qu'on l'a évoqué au début de l'émission avec l'histoire du précepteur, le précepteur promène aussi les enfants. Il y a une activité extrascolaire qui relève de l'éducation, peut-être pas de l'instruction, mais en tout cas de l'éducation. Et cette question alors on parle d'évitement des familles aisées, d'évitement du public pour aller vers le privé. Je pense que ça renvoie, d'évitement de la carte scolaire, ça renvoie en partie à cette question de qu'est-ce que mon enfant fait en dehors du temps scolaire? Est-ce qu'il est dans un environnement qui est soutenable pour une éducation qui continue?
Et est-ce que vous pensez que des frais d'inscription plus élevés dans l'enseignement supérieur à l'université rendraient le système plus efficace et notamment éviteraient une bonne partie des erreurs d'orientation? Ça aussi, c'est un argument qui est souvent invoqué.
Alors, je connais cet argument. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Après, l'avantage aux frais d'inscription, c'est qu'elle fournit directement une ressource, faut pas non plus se voiler la face, et que de fait c'est un élément qui peut servir à développer des services dans l'université, qui peut servir à développer des, en fait, par exemple, on a en tête les écoles de commerce qui ont des droits d'inscription très élevés. En fait, ces droits d'inscription correspondent grosso modo au niveau d'investissement par étudiant en moyenne de l'État. Donc en fait, on n'est pas sur des... Encore une fois, il y a beaucoup de coûts qui sont cachés et la gratuité cache un coût important qui peut être récupéré en partie par voie d'inscription.
Pour le dire simplement, un élève de licence va payer à peu près entre 300 et 500 euros par an. Mais combien coûte-t-il à l'État?
Alors en licence, il va coûter un peu plus cher et ça dépend s'il fait des matières scientifiques ou s'il fait des... Si on prend les matières les moins chères, c'est-à-dire l'économie, la gestion et le droit, ça va être de l'ordre de 6 000 euros, 6 000, 7 000 euros.
C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'universités qui demandent à obtenir le statut de grand établissement. Ça leur permet de déroger aux limitations sur les frais d'inscription?
Je pense que c'est une explication, oui, effectivement.
On assiste vraiment à une augmentation progressive, une politique des petits pas, augmentation de ces frais d'inscription.
Sachant qu'en général, les établissements qui mettent en place des droits d'inscription réfléchissent au mode d'accès, des plus défavorisés. Donc, ça ne résout
avec
pas
des
tout.
Des bourses, notamment. Alors, justement, est-ce qu'on peut mettre en place davantage de bourses ou mettre en place des prêts à remboursement conditionnel aux revenus? Ça, c'est quelque chose qui a été inventé, conçu pour justement de démocratiser davantage l'accès ou le maintien dans l'enseignement supérieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Pierre Courtus, de quoi il s'agit?
Oui. Alors, ce dont il s'agit, en fait, c'est la mise en place de droits d'inscription en Australie. En Australie, on a mis en place des droits d'inscription. En même temps, pour aider les étudiants à payer les droits d'inscription, on les a laissés s'endetter et avec un système qui est particulier, qui est que la dette continue de courir tant que l'étudiant ne l'a pas remboursé. Et à chaque fois que, chaque année, ces annuités correspondent à une partie de son revenu, sachant que, comme pour un impôt sur le revenu, quand son revenu annuel est en dessous d'un certain niveau, il ne paie pas d'annuité. Donc, il y a l'idée, en fait, c'est une sorte d'impôt sur le revenu qui serait strictement ciblé sur les dépenses, des dépenses d'éducation. Des dépenses pédagogiques.
Et j'aurais eu encore beaucoup de questions à vous poser. La question du financement de l'enseignement supérieur, c'est évidemment une question très vaste et sur laquelle on aura l'occasion de revenir. Un grand merci à tous les deux. Mais d'abord, c'est l'heure pour nous de retrouver Xavier Martinet et son journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
156 milliards d'euros injectés par la Banque Centrale Chinoise dans l'économie, mesure de soutien massive des autorités, l'épisode du coronavirus s'annonce comme un test pour la Chine et pour l'économie mondiale.
Oui, alors que le nombre de morts dépasse maintenant celui du SRAS en 2002, les bourses asiatiques ont plongé hier et Pékin s'inquiète des conséquences car les répercussions économiques directes se multiplient, sont particulièrement touchées le secteur du tourisme, mais aussi de l'industrie qui doit faire face à des suspensions de production dans les usines Toyota par exemple ou du coréen Foxconn, et ceci avec une production au plus bas depuis novembre 2018. Résultat, si en 2002 le SRAS avait coûté un quart de sa croissance à la Chine conjoncturellement, hier le cabinet Standard & Poor's prévoyait pour la Chine une croissance au premier trimestre de 4% au lieu de 6%, et plus grave, selon un autre cabinet ING, la consommation intérieure, pilier de la politique économique de Pékin, pourrait être divisée par deux d'ici à fin 2020. Écoutez ce qu'en disait Karine Milsan, elle est professeure à PSE et chercheuse CNRS spécialiste de la Chine.
À la différence du SRAS, en fait, où les contrats avaient été gelés, mais après le SRAS, les contrats avaient repris, et la Chine était en fait en montée, là on est dans une situation assez différente, où la Chine est une puissance économique mondiale, et donc du coup, la question c'est à quel point cette épidémie va affecter cette puissance économique. D'une part, la Chine avait entamé un tournant également sur le tourisme, avec une activité touristique qui était en essor, c'est évident, mais je ne pense pas que ce soit le point principal. Je pense que réellement, on a une chaîne de production qui est mondialisée aujourd'hui. Et donc, si la crise persiste, leur marché risque de s'étioler par certains côtés. Et donc, du coup, il faut réussir à garder un cap sur cette économie. On avait vu l'exemple avec le Japon, c'était une situation complètement différente avec Fukushima, mais ça avait affecté en fait certaines entreprises qui ne produisaient pas en Chine, mais qui produisaient certaines choses au Japon, justement tout près de Fukushima, alors que c'était extrêmement localisé. On avait vu que même si c'était localisé, ça avait déjà eu des impacts sur certaines entreprises, et pas pour le produit fini, mais pour les produits intermédiaires qui servaient aux produits finis. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette intervention de la Banque centrale. Et c'est vraiment c'est cette idée que l'ensemble du mécanisme pourrait s'enrayer et qu'il faut le soutenir pour éviter un enrayement de ce système.
Et la semaine dernière, le président de la Fed s'inquiétait d'un risque de ralentissement mondial.
Oui, Jérôme Powell aux États-Unis, habituellement peu inquiet et qui évoquait les incertitudes, notamment celles liées au coronavirus, qui augmentent en effet la volatilité des marchés. Le cabinet ING, encore une fois, a d'ores et déjà estimé le recul du tourisme mondial à 30%. Et un nouveau signe de ralentissement, eh bien, c'est l'économie de Hong Kong qui vient de se contracter pour la première fois en 10 ans.
On passe au bref. Avocats, médecins, ce sont les professions libérales, Xavier, qui manifestent aujourd'hui contre la réforme des retraites.
Oui, première mobilisation pour les médecins libéraux et quelques autres professions médicales. Et nouvelle journée de manifestation pour les avocats en grève depuis 4 semaines. Outre les batailles de calcul et assez techniques, puisque chaque syndicat a commandé son étude montrant des pertes de revenus allant de 4% à un tiers, l'enjeu est aussi politique pour les avocats. C'est garder la main sur leur autonomie de gestion, ces fameuses caisses autonomes, dont celle des avocats se monterait à 2 milliards d'euros et qui disparaîtrait dans la future réforme. Réunion donc demain soir avec le Premier ministre.
Et pour finir, l'Afrique de l'Est fait face à une invasion de criquets. La Somalie vient de décréter une urgence nationale.
Oui, en raison de la menace majeure pour la fragile situation de la sécurité alimentaire, dit le ministère de l'Agriculture, que constituent menace ces milliards de criquets qui traversent l'Afrique depuis quelques jours. Pas plus de précision. Par contre, le Kenya voisin fait déjà appel à des entreprises privées pour réaliser des épandages massif de pesticides. Le Kenya, où l'agriculture représente 34% du PIB, veut aller vite, puisque comme en Somalie, là, les récoltes doivent avoir lieu en avril.
Merci Xavier, on retrouve votre journal de l'écho demain. Merci beaucoup Pierre Courtiou et Clémence Cardonquin de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci également aux techniciens de France Bleu Bordeaux qui ont permis ce duplex et à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Paloma Soria-Brown, Aliette Ovine et Alain de Recourt, à la réalisation Anne de Pelchin, aux manettes aujourd'hui Ludovic Auger. Demain, comment l'éducation est-elle devenue un business mondial? On en parle avec Lionel Rago et Marie-France Lange. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.